François Hellebronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po. Depuis l'annonce au soir du 9 juin, après le résultat des élections européennes du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, on assiste dans notre pays à une explosion des partis et de la vie politique. Trois camps se font désormais face. Celui du Rassemblement national avec l'apport de certains députés Les Républicains. Le camp de la majorité relative du président de la République avec certains le souhaitent, le reste des députés républicains. Et enfin, le nouveau front populaire qui va des socialistes au NPA en passant par Lutte ouvrière et les indigènes de la République. Emmanuel Macron souhaitait par cette dissolution clarifier l'espace politique français. Y voyez-vous plus clair aujourd'hui, François Hellebronn?
Le dimanche soir, à 21h, quand j'ai écouté le président de la République annoncer cela, j'ai eu un moment de sidération. Et je pèse mes mots de sidération. Comme vous, j'ai l'âge de me rappeler d'autres dissolutions, en d'autres circonstances. Et là, je me suis dit immédiatement pourquoi. Rien ne l'obligeait, ni constitutionnellement, ni politiquement, à prendre cette décision drastique, apparemment soudaine, non réfléchie et aux conséquences immédiatement désastreuses. Il avait ce qu'on appelle une majorité relative, mais avoir une majorité relative, c'est une majorité quand même. Et relative, c'est bien, parce que ça pousse justement dans cette Ve République où le président a beaucoup trop de pouvoir, à de la concertation,
à
du dialogue, à des compromis. Il arrivait à avoir des majorités avec les Républicains parfois, avec certains socialistes modérés d'autres fois sur certains sujets. Et donc, c'était plutôt, moi je trouvais ça même plutôt bien qu'il n'ait pas de majorité absolue, comme on est trop habitué sous la Ve à avoir des assemblées de parlementaires godillots, comme on les appelle, c'est-à-dire qui votent tout ce que le gouvernement propose. Là, c'était plutôt une situation assez saine. Donc, c'est vraiment un coup d'éclat, un coup de colère et un mauvais service, surtout un mauvais service rendu à la France. Et j'en veux beaucoup au président de la République de cette décision légère et inconsidérée. Car en plus, très vite on nous annonce le calendrier électoral, c'est un calendrier électoral qui ne permet absolument pas le débat démocratique nécessaire à l'élaboration d'une réflexion profonde sur ce que doit être une plateforme de gouvernement, quelle que soit la majorité qui sort des urnes. D'avoir 3 semaines pour se décider, c'est on donne une prime aux gagnants des européennes. Et qui sont les gagnants des européennes? C'est l'extrême droite française. L'extrême droite française, dans sa vision la plus radicale et la plus dure, on nous compare souvent à l'Italie, mais l'extrême droite italienne est beaucoup plus modérée. D'ailleurs, on ne veut pas s'allier à l'extrême droite française. Et quand on a un Rassemblement national à 31,5%, qui rafle la majorité, qui est en tête dans 95% des communes françaises, et qu'en plus on peut rajouter les 5,5% de Reconquête, on est à 37%, soit près de 4 Français sur 10 qui ont voté pour l'extrême droite. On leur donne une prime, un avantage, et donc c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je ne vois pas comment, dans le peu de temps qui nous reste, la tendance peut être inversée pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et donc de nous trouver dans une cohabitation, mais pas une cohabitation comme on l'a connue précédemment, avec des présidents modérés et des premiers ministres modérés, genre Chirac-Jospin, genre Mitterrand-Balladur ou Mitterrand-Chirac, mais d'avoir une cohabitation avec un président totalement démuni, totalement affaibli, et un Rassemblement national revanchard, qui arrive enfin au pouvoir après des années d'errance aux marges de la Ve République, avec une volonté de revanche, une volonté de reprendre tous les postes, une volonté d'appliquer un programme délétère sur beaucoup de sujets de liberté publique, de liberté fondamentale, mais aussi un programme délétère sur le plan économique, dans un pays, la France, sur le plan économique, très fragile. Et par ailleurs, en face, il se constitue un bloc qui me choque. J'ai beaucoup admiré la campagne de Raphaël Glucksmann, qui justement redonnait un espoir à la social-démocratie à la française. C'est-à-dire une social-démocratie avec des principes, des valeurs, une dignité, un rejet des racismes, un rejet de l'antisémitisme, que nous avons trop entendu au sein de la France insoumise, du NPA et des indigènes de la République, qui sont maintenant dans cette alliance incongrue du Nouveau Front Populaire. Il avait aussi redonné une forme de dignité et son score, tout à fait honorable, de plus de 14%, est absolument remarquable et donnait un espoir. Enfin, la social-démocratie est de retour. Le score désastreux d'Anne Hidalgo au présidentiel à moins de 2%. et les Insoumis qui étaient remis à leur place de marginaux, radicaux, à moins de 10%. Hélas, les appareils politiques, Olivier Faure le premier, ouais. Olivier Faure qui trahit, on a beaucoup tapé à juste titre sur la trahison d'Éric Ciotti pour les Républicains de s'être rallié au Rassemblement National, mais moi je veux taper tout autant sur Olivier Faure qui a trahi la social-démocratie en se s'alliant et en se couchant dans une négociation où il a mal négocié comme il avait déjà mal négocié en 2022, et en donnant une majorité de circonscriptions à la France insoumise, qui pour moi, c'est tout autant déconsidéré du débat national, du débat républicain et démocratique, que le Rassemblement national. C'est devenu un parti de factieux, c'est devenu un parti antisémite, et je pèse mes mots, avec un certain nombre de leurs leaders, députés, qui ont tenu des propos antisémites qui devraient être condamnés par la loi, et en commencer par leur chef, Jean-Luc Mélenchon, qui manipule le bruit, la fureur et la menace. Et donc, on est dans une situation absolument dramatique et nous avons très peu de jours pour que la France se réveille et empêche à la fois un raz-de-marée Rassemblement National et puis un bloc d'opposition dominé par cette frange radicale antisémite qu'est la France insoumise.
Ouais. Au soir du second tour, un choix peut s'offrir, Rassemblement National ou le nouveau Front Populaire.
C'est dramatique. C'est dramatique. J'appelle en tous les cas... personnel au premier tour, à voter pour les candidats républicains-démocrates, c'est-à-dire les candidats Renaissance, les candidats des Républicains qui ne se sont pas alliés au Rassemblement National, les candidats socialistes qui ne se sont pas alliés à ce nouveau Front Populaire, donc à la France Insoumise. Par exemple, il y a un très bel exemple à Massy, dans l'Essonne, de Jérôme Guedj, député socialiste, qui est candidat indépendant, qui n'a pas voulu de cette alliance, contre nature. Il ne faut pas oublier qu'il y a certains socialistes comme Manuel Valls, comme Bernard Cazeneuve qui refusent cette alliance totalement scandaleuse. Donc il faut au premier tour privilégier ces candidatures parce qu'il faut qu'elles pèsent au second tour, et au second tour il faut faire barrage aux deux, au Rassemblement National comme à la France Insoumise. À titre personnel, si j'ai un candidat Rassemblement National et un candidat France Insoumise, qui peut être le cas dans la circonscription où je vote, je voterai blanc, parce qu'il faut voter. Il faut montrer sa participation. Mais je ne peux pas voter pour un parti construit, le Rassemblement National, créé par d'anciens miliciens, d'anciens Waffen-SS, dont ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella n'ont jamais remis en cause cet héritage. Je ne peux pas voter pour un parti qui considère que Pétain et le régime de Vichy a été une chance pour la France. Je ne peux pas voter pour un parti qui, aujourd'hui, camoufle son antisémitisme et qui a toujours financé l'antisémitisme. Moi, je me rappelle... quand j'étais jeune militant, des chants nazis édités par...
Jean-Marie Le Pen.
Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella, qui paraît lisse, sympathique et jeune et totalement inexpérimenté pour être Premier ministre, au-delà de ça, a été quand même biberonné aux vidéos d'Alain Soral sur égalité et réconciliation et pendant 5 ans a été le compagnon de la fille de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon qui a été le patron du GUDE, qui est le grand financier du Rassemblement National et qui aussi a été un des porteurs de valises de Bachar el-Assad en France. Donc je ne vois pas en quoi lui peut être un allié des Juifs. Et donc je suis très inquiet de leur arrivée au pouvoir. Et de l'autre côté, la France insoumise, c'est totalement déconsidéré. J'avais écrit un article il y a 7 ans, en 2017, sur le problème de Mélenchon avec les Juifs. J'avais appelé ça Mélenchon et le peuple supérieur, parce que c'était comme ça déjà en 2014, comment il avait traité les Juifs. À l'époque, on m'avait dit « exagère, Mélenchon n'est pas antisémite ». Hélas, les faits m'ont donné raison. Mélenchon a complètement basculé dans l'antisémitisme. Et donc, nous sommes dans une situation, en tant que Français d'abord, en tant que Républicain et en tant que démocrate, terrible, et en tant que Français juif, encore plus terrible, puisqu'il y a deux partis qui ont une idéologie hostile aux Juifs, en France, qui sont aux portes du pouvoir, ou en tous les cas, en possibilité de constituer des majorités fortes ou relatives à l'Assemblée nationale.
Alors, malgré ce tableau assez sombre que l'on vient de dresser, il y a de bonnes nouvelles. On va commencer par le salon Eurosatory. Le tribunal de commerce de Paris a jugé discriminatoire le fait que les entreprises israéliennes aient été refusées cette année de participation sur décision du gouvernement. Et d'ailleurs, ce matin, plusieurs représentants d'entreprises de défense israéliennes étaient présentes au salon, mais sans stand.
C'est une très grande victoire de la justice française. J'aime la justice française quand elle est courageuse et digne. Quand on dit que c'est une décision du gouvernement, apparemment c'est une décision absurde. et injuste du président de la République, on ne sait pas pour quelle raison, d'avoir interdit la représentation des sociétés israéliennes au salon Eurosatory des grandes, c'est le grand salon international de l'armement.
Pour la même raison que celle où il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme.
Voilà, c'est un coup de sang, c'est un mauvais procès et surtout c'est absolument scandaleux. Un, de boycotter un allié. Israël, sur le plan sécuritaire, est absolument un allié de la France. L'a montré à plusieurs reprises, notamment dans la lutte contre le terrorisme, en France comme au Proche-Orient. Ce sont des alliés. Israël est un allié stratégique à tout point de vue, et surtout en termes d'armement. Si, grâce à Israël, on a les drones. Grâce à Israël, on a les systèmes de télésurveillance.
Et grâce à Israël, l'avion présidentiel est équipé de contre-mesures pour les missiles fournis par la société Elbit, l'avion présidentiel français.
Tout à fait. Et aussi, pour la protection des Jeux Olympiques, énormément de matériel sécuritaire israélien est utilisé. Donc ça, c'est absurde. En plus, c'est totalement injuste. Pourquoi boycotter un pays qui est en guerre, qui s'est défend contre un groupe terroriste qui l'a attaqué de manière absolument terrible et a pris des otages de civils, dont il y a toujours 120 otages détenus par le Hamas à Gaza? Pourquoi condamner Israël pour ça quand, au même salon, il y a la Chine, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite? Les 500 000 morts au Yémen provoqués par l'Arabie Saoudite, ou les 1 million de Ouïghours emprisonnés par le régime chinois, ou les Arméniens persécutés et les Kurdes persécutés par l'armée turque, ceux-là, les sociétés turques, saoudiennes, chinoises ou pakistanaises, elles ne sont pas interdites. Donc c'est scandaleux et je me félicite que le tribunal de commerce ait pris cette décision de justice et d'équité qui dit que c'est discriminatoire, et c'était totalement discriminatoire, et que les entreprises israéliennes sont les bienvenues. Et je veux saluer l'action de l'avocat Patrick Klugman, qui a été absolument déterminante, qui est celui qui a plaidé et qui a porté ça. Et il y a une deuxième décision de justice très importante, c'est que la Cour d'appel a cassé le jugement du tribunal de Bobigny, jugement inique du tribunal de Bobigny, qui interdisait même aux Israéliens, à titre individuel, de venir au salon de Rosatory. Ça a été cassé aussi par la Cour d'appel hier soir. Donc deux jugements. Et c'est deux très bonnes nouvelles parce que la justice prévaut sur la discrimination dans notre pays.
Autre bonne nouvelle, le colloque qui s'est tenu au Sénat pour les 75 ans des relations entre la France et Israël sous l'égide de la Fondation France-Israël, de l'Université de Tel Aviv et de la Fondation Rothschild.
Tout à fait. C'est vraiment à l'initiative de Muriel Haïm, président de la Fondation France-Israël, que je veux saluer et remercier. Nous avons été invités au Sénat par le sénateur Patrick Kanner, et en présence du nouvel ambassadeur d'Israël en France, M. Joshua Zarka, qui a inauguré le colloque, nous avons participé à un colloque absolument passionnant qui sera bientôt visible sur le site de la Fondation France-Israël. Donc vous pourrez retrouver les différentes interventions. Il y avait trois tables rondes. La première, c'était l'histoire des 75 ans des relations franco-israéliennes. Il y a eu un exposé de Daniel Saada, qui avait été ambassadeur d'Israël en France. Il y a eu un exposé d'Éric Danon, qui a été ambassadeur de France en Israël, sur la dimension diplomatique et sur l'importance de la reconnaissance française d'Israël, l'âge d'or des relations France-Israël, et puis l'ambivalence des relations, et enfin la période actuelle. Et il y a eu un exposé assez lumineux et très beau sur la dimension spirituelle des relations entre la France et Israël, à travers le judaïsme et le christianisme, par le père Louis-Marie Coudray, qui est le directeur du monastère d'Abou Ghosh, au pied des collines qui montent vers Jérusalem. C'était très beau. J'ai eu l'honneur d'animer la deuxième table ronde, qui était sur les coopérations. Donc il y a eu un exposé lumineux de Georges Diner, qui est le conseiller culturel en Israël, pour l'ambassade de France, sur la coopération culturelle, artistique et universitaire. Et il y a eu un exposé passionnant du docteur David Harari, qui est l'inventeur du drone, justement, sur les relations scientifiques franco-israéliennes et le Haut Conseil scientifique franco-israélien, et un exposé de Dov Zera sur les relations économiques. Et enfin, pour conclure, il y a une réflexion sur la géopolitique avec Emmanuel Navon, professeur à l'Université de Tel Aviv, et Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, sur la relation franco-israélienne liée au bouleversement géopolitique du Moyen-Orient actuel, les forces, les faiblesses. Et justement, on est revenu à cette occasion sur cette interdiction des entreprises israéliennes de venir au salon du Rosatory. Mais comme on mettait ça sur le temps long, sur une perspective longue, 75 ans de relations, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Récemment, il y a eu des hauts et des bas un peu toutes les semaines. Des hauts, c'est le président Macron qui va en Israël. Un autre haut, c'est quand la France est le seul pays au monde à honorer aux Invalides les 42 Français assassinés le 7 octobre en Israël. Les bas, c'est l'absence du président à la manifestation contre l'antisémitisme, c'est ce boycott des entreprises israéliennes. Donc il y a des hauts et des bas, mais essayons d'être positifs et toujours de se battre pour une relation bilatérale, apaisée et constructive entre la France et Israël.
Ouais, et puis, se tenait également aujourd'hui, ce matin, à Sciences Po, Paris, un colloque sur le thème de la coopération universitaire avec bon nombre de représentants des universités israéliennes, dont celle de Tel Aviv, Sciences Po, qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, et là, qui s'honore sur la coopération universitaire.
Tout à fait. Comme vous l'avez rappelé, je suis professeur à Sciences Po, donc je connais un peu les problèmes et j'ai été confronté à titre personnel et je m'y suis opposé. Une des revendications les plus absurdes du comité Palestine de Sciences Po était la rupture des relations universitaires entre Sciences Po et les universités israéliennes. Ces relations sont profondes, anciennes et fortes. Elles existent depuis plus de 20 ans. Le premier partenaire de Sciences Po en Israël est l'université de Tel Aviv. Et toutes les dirigeants de Sciences Po, à commencer par sa présidente, son directeur, les doyens, le directeur des affaires internationales, ont refusé cette demande malgré les menaces, malgré les chantages de cette minorité factieuse à Sciences Po. Et à titre d'exemple, il y avait prévu cette semaine deux jours de colloque sur une réflexion sur la démocratie libérale. Bon sujet, surtout dans l'actualité française actuelle, qui devait se tenir à l'université de Tel Aviv avec Sciences Po, l'université de New York, l'université de Hong Kong et l'université de Jérusalem. Évidemment, c'était compliqué à la fois pour les professeurs français, mais comme surtout pour les professeurs américains de se rendre en Israël, parce que les professeurs américains n'ont pas le droit de se rendre en Israël pour des raisons de sécurité et d'assurance. Et donc Sciences Po a très ouvertement accepté d'accueillir cette conférence. Et donc ce matin, j'étais à l'ouverture de cette conférence à Sciences Po à Paris, où il y avait une vingtaine de participants, des professeurs de droit constitutionnel et de droit public de ces universités. Et il y avait 6 professeurs de l'université de Tel Aviv et un professeur de l'université de Jérusalem qui était présent. Et ils étaient très heureux de se retrouver avec leurs collègues de Sciences Po, leurs collègues de NYU, leurs collègues de Hong Kong, parce qu'il y avait aussi l'université de Hong Kong. Et ils ont débattu toute la journée des aspects de l'évolution des démocraties libérales et des dangers et des enjeux des démocraties libérales. Donc c'est une bonne chose.
François Helbron, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.